Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halou Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Réouverture des classes d'examen, 9e année et terminale. Le processus a démarré le 2 juin dernier. Après 4 jours, quel est le bilan? Nos invités pour le Grand Dialogue de ce soir sont Maurie Dambélé du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016, Daouda Sako qui est là au nom de la Fédération des parents d'élèves du Mali, Dr Seydou Loua et pédagogue enseignant à l'Université de Bamako. Je rappelle que nous avons invité les autorités à travers le ministère de l'Éducation, mais nos tentatives sans rester vaine. Je suis Mouhamadou Touré, bienvenue à tous.
Le Grand Dialogue.
Démarrage des cours le 2 juin dernier. Docteur, monsieur Maurie Dambélé, excusez-moi, vous êtes du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Est-ce que les enseignants ont participé à cette réouverture?
Non, nous avons jugé de boycotter cette rentrée. Puisque nous avons constaté que le gouvernement voulait faire seulement un coup médiatique en nous utilisant comme des objets. Donc nous avons boycotté. Sinon, au fait, il n'y a pas eu... Là où nous sommes quand même, le 2, nous avons constaté des classes vides, l'absence des kits matériels qui ont été promis. Bon, peut-être la distribution de quelques masques.
Vous utilisez comme des objets un coup médiatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que
vous voulez? Au fait... Si nous étions rentrés le mardi, le gouvernement allait utiliser ça comme faire une communication à la radio, sachant qu'effectivement, il ne pouvait pas avoir la reprise, parce que tout ce qui était promis comme matériel pour qu'on appelle le Covid-19, là où quand même je suis, nous avons constaté que les salles de classe n'étaient pas vraiment prêtes. Les kits matériels n'étaient pas là. Ils ont quand même distribué pendant la journée quelques masques à certains élèves. Donc nous avons jugé nécessaire que, et surtout quand même aussi cette négociation que le gouvernement a essayé de faire de façon malicieuse, hein, en tergiversant autour de l'application de la loi. Il y a tous ces éléments-là qui nous ont poussés pour ne pas tomber dans leur piège de boycotter la rentrée.
Nous avons distribué quelques masques.
Non, ce n'est pas nous, c'est le gouvernement, ce n'est pas nous.
D'accord. Yeah. Monsieur Daouda Sako, est-ce que vous pensez que cette non-participation des enseignants signataires du 15 octobre qui ont décidé de boycotter la rentrée, est-ce que c'était justifié?
Merci bien, M. Touré, pour nous avoir conviés sur ce plateau pour parler de la problématique de la rentrée scolaire, qui officiellement avait été prévue pour le 2, mais malheureusement, il y a eu beaucoup d'établissements qui sont restés sans les professeurs. Cependant, nous, parents d'élèves, on ne s'attendait pas à l'absence des professeurs dans les lycées. Parce que le lundi, nous avons rencontré M. le ministre de l'Éducation nationale.
Lundi 1er juin.
Oui, pour faire le point des préparatifs de la rentrée. Aussi bien les équipements contre la pandémie. Bon, là, on en avait déjà parlé, mais il fallait nous dire à l'état actuel, où est-ce qu'ils en étaient. Il y avait quand même quelques insuffisances, mais c'était un début. Il fallait s'y attendre. Comme peut-être on aura en parlé, parce que le 2, les membres, beaucoup de membres de la fédération qui étaient disponibles, ont fait le tour des établissements de leur commune pour voir ce qui s'y passe. Alors je disais que on ne s'attendait pas à l'absence des professeurs parce que on ne nous a pas exhibé un préavis de grève des enseignants. Nous sommes allés avec l'idée que, la pandémie, les écoles étaient restées fermées, mais que les enseignants, même s'ils étaient en période de conciliation avec le gouvernement, après une période quand même, la grève pour nous était finie, mais les négociations devaient continuer. Alors, le 2, pour nous, il devrait reprendre, quitte à émettre un préavis de grève, comme quoi, on n'a pas eu satisfaction. Cela n'a pas été fait, vraiment, à notre grande déception. Et c'est ce qui aurait dû être la voie normale. On rentre, on travaille, on émet un préavis de grève. Au bout de 15 jours, s'il n'y a pas de réaction ou autre, alors on va en grève. C'est ça la voie normale. Donc, comme cela n'a pas été fait, j'ai fait le tour des établissements qui étaient... dont je suis le président de l'APE, comme au lycée Askia, par exemple, où vraiment c'était vide. À 8 heures, il y avait les professeurs, les élèves. Après, il y a eu une petite rencontre de quelques minutes dans la salle des professeurs du lycée Askia. Après, tous les professeurs sont partis. Les élèves ont attendu une vingtaine de minutes. Après, eux aussi, ils ont abandonné l'établissement, ils sont partis. Mais quand j'ai fait une observation sur les kits de lavage de mains et puis les masques, le proviseur m'a fait savoir que tous les élèves, quand même, étaient avec le masque.
Et on va y revenir concernant les gestes, les mesures barrières contre la COVID-19. Voilà. Docteur Seydou Loua, réouverture des classes d'examen dans ce contexte de crise scolaire et de crise de sanitaire également. Est-ce que cette réouverture est justifiée selon vous?
Bien, merci beaucoup pour cette invitation, pour ces énièmes débats sur l'école malienne. Et je dis bonjour à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui nous regardent. Effectivement, le gouvernement a décidé que la rentrée aurait lieu le 2. Je pense qu'on a suivi un peu certains pays qui nous entourent, plus aussi quelques pays européens qui, malgré la pandémie, ont décidé quand même d'ouvrir les écoles, mais en respectant beaucoup de mesures barrières, notamment les gels, les masques, les distanciations et autres. Bon, concernant la grève des enseignants, parce que c'est de cela qu'il s'agit réellement, l'école devait ouvrir, c'est vrai. Avec la pandémie, ils ont décidé que ce sera seulement les classes d'examen qui vont ouvrir parce qu'il faut de la distanciation, parce que aussi il n'y a pas les enseignants. Je pense que le gouvernement avait prévu ce coût-là des enseignants. Raison pour laquelle ils ont décidé à ce que seulement les classes d'examen ouvrent. Parce qu'ils comptaient réellement sur les volontaires qu'ils ont recrutés pour tenir les classes d'examen. Mais en réalité, c'était ça, en fait, l'objectif. Ils savaient pertinemment, monsieur le collègue a raison, les enseignants, normalement, ne sont pas en grève parce que les préavis sont terminés. Normalement, ils devaient rentrer pour déposer un autre préavis. Mais le gouvernement, je pense, le gouvernement a bien senti ce coup-là des enseignants qu'ils n'allaient pas rentrer. Donc, ils ont décidé que les classes d'examen seulement ouvrent pour essayer de conduire le reste de l'année à bout avec les volontaires. Mais ce qu'on peut dire est que ces volontaires-là, malheureusement, ne peuvent pas tenir l'année jusqu'au bout, parce que tout simplement, ils ne sont pas nombreux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les nouvelles recrues-là ne sont pas assez rodées pour le moment pour tenir les classes d'examen. Donc, on est quand même rentré pour peut-être faire un coup médiatique ou pour montrer à la communauté nationale, internationale, que le Mali aussi a ouvert ses écoles. Mais en réalité, c'est tout simplement de la figuration. Parce que monsieur vient de le dire, beaucoup d'écoles sont restées fermées. Les anciens ne sont pas venus, les élèves ne sont pas venus. Et on ne doit pas se limiter seulement aux écoles publiques. Il y a les écoles privées aussi. Et moi, je connais des écoles privées, notamment des lycées privés, qui ne sont pas rentrés, pas parce qu'il y a la pandémie, pas parce que les anciens sont en grève, mais tout simplement parce que les promoteurs n'ont pas payé les anciens depuis le début de l'année. Moi, je connais des lycées privés dans cette situation. Les enseignants sont venus à l'école, mais ils ont refusé de rentrer dans les classes parce qu'ils veulent qu'on les paye. Donc, les écoles privées aussi sont dans ces situations. Donc, nous pouvons dire que l'école malienne, en général, aujourd'hui, est dans une crise tellement profonde que ça nécessite vraiment une analyse assez profonde. Et on ne doit pas se limiter seulement aussi aux écoles dans les grandes villes. Il ne faut pas oublier les villages. Et dans ces villages, ce n'est pas seulement le problème de la grève des enseignants ou le problème de la pandémie qui va empêcher l'ouverture des écoles. L'hivernage commence.
Et on va y revenir tout à l'heure avec notamment notre correspondant à Koutiala, David Koulibaly. Monsieur Mouri Dembélé, vous n'êtes pas en grève, mais vous ne rentrez pas en classe. Est-ce que vous pouvez expliquer ?
Il dit, nous avons beaucoup écouté, nous sommes des pédagogues, nous ne sommes pas des démagogues. Mm. Depuis l'autre jour, je vous ai dit que le gouvernement est en train de faire un jeu de la pédagogie, de la démagogie. Nous ne serons pas objets de ça. C'est tout simplement ça. Et puis, la façon de réellement de négocier la loi pendant ces derniers temps nous a montré réellement la mauvaise foi du gouvernement à ne pas l'appliquer. Ça ne nous met pas dans des dispositions vraiment à accompagner. Et surtout, si nous avons boycotté, c'est parce que le ministère de l'Éducation nous a boycotté d'abord. Le ministère de l'Éducation, pendant toute cette procédure de la rentrée, a invité les partenaires de l'école. Les syndicats n'ont pas été invités, c'est comme s'ils ne sont pas des partenaires de l'école. Alors que
mais
nous
vous dites
sommes...
que vous vous attendiez à ce que vous appelez le coup médiatique du gouvernement. Oui. Pourquoi vous n'avez pas donc si anticipé nous étions... déposant un préavis de grève?
Non, on ne va pas déposer un préavis de grève parce que les négociations étaient en cours, effectivement. Les négociations étaient en cours et les négociations sont toujours en cours. Donc à partir de là, nous n'allons pas déposer un préavis. Si le gouvernement s'attelle seulement à appliquer la loi en ce moment, on ne veut pas vraiment déposer un préavis, puisque les négociations sont déjà en cours. Quoi. Tant que les négociations sont en cours, on ne peut pas déposer un préavis.
Monsieur Sakho, voilà. Est-ce que vous sentez une mauvaise volonté des deux côtés, que ce soit du gouvernement, que ce soit des enseignants signataires du 15 octobre?
Bien, merci bien. La dernière fois, j'ai parlé de cette volonté mal partagé entre les syndicats et le gouvernement, vu le temps que l'école a mis pour être fermée jusqu'à aujourd'hui. Donc s'il y avait une volonté réelle des deux côtés, on serait quand même arrivé à un point d'accord. Mais je voudrais rectifier un peu ce que monsieur... j'ai oublié de vous me rappeler...
Docteur Seydou Loi ou...
Oui, Loi vient de dire. Vous savez, en aucun moment, à travers nos rencontres avec le ministre, surtout pour les préparatifs de l'ouverture des classes, il n'a pas été question de volontaires. Et le ministère et les parents d'élèves, on s'est basé sur les professeurs titulaires. Donc, on n'avait pas fait allusion à l'usage des titulaires, des volontaires pour remplacer les titulaires. En tout cas, ça, ce n'était pas sur la table. Donc, c'est pour rectifier cela. Comme il a dit, les volontaires, je ne les ai pas rencontrés, je ne sais pas quelles compétences ils ont.
Donc, vous pensez que ce n'était pas quelque chose qui avait déjà été décidé, c'est parce que les enseignants signataires du 15 octobre ont boycotté, que le gouvernement se sont rabattus sur les volontaires.
Ça, c'était avant. Mais en tout cas, pour le 2, on ne s'attendait pas à un boycott de la part de la synergie. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y avait pas eu émission de préavis de grève à partir du 2, ou bien qui entre dans la période du 2 et en amont.
Mais monsieur Loua a souligné une autre chose qui est le nombre limité selon lui des enseignants volontaires et également la faible capacité des nouvelles recrues. Alors est-ce que vous pensez aujourd'hui que cela pose problème par rapport à l'enseignement avec ces classes d'examen?
Bien, il faut faire une évaluation succincte du nombre des enseignants qui peuvent tenir les classes. Parce que vous savez, même pour le titulaire, et on l'a beaucoup critiqué. Il y a des titulaires qui se spécialisent pour les classes de 10e. Ce n'est pas normal. Des titulaires qui se spécialisent pour les classes de 11e. Ce n'est pas normal. Des titulaires qui se spécialisent pour les classes d'examen. Ce n'est pas normal. On est professeur d'enseignement secondaire. C'est de la 10e année à la terminale. J'ai enseigné au lycée de 78 à 86.
Mais si ce n'est pas normal, n'est-ce pas le gouvernement qui en est responsable?
Non, mais c'est l'administration scolaire qui favorise ce genre de hiérarchie au niveau du corps professoral. Donc, un professeur vient, ben non, moi je suis spécialiste des 10e. Ce n'est pas normal. Comme je dis, j'ai été inspecteur général pendant près de 15 ans au niveau de l'enseignement de l'éducation nationale.
Et on va y revenir. On va à Mopti retrouver notre correspondant Mamoudou Bokoum. Mamoudou Bokoum, vous êtes notre correspondant à Mopti. Aujourd'hui, quelle est la situation? Comment se déroule ce processus de réouverture des classes d'examen dans la région?
Bonjour, écoutez, les classes ont, l'ouverture des classes a été annoncée officiellement. Effectivement, les classes ont été ouvertes, mais il n'y a pas eu de cours. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que les classes sont ouvertes? En tout cas, les salles sont ouvertes, les étudiants, les élèves et étudiants partent à l'école. Mais malheureusement, la présence, comment on appelle, la présence des enseignants n'est pas du tout effective. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les enseignants continuent à être en grève parce qu'ils ne sont pas venus pour dispenser des cours aux élèves. Et ça, c'est au niveau des écoles publiques. Par contre, il y a des écoles privées où les cours ont commencé pour le moment. Mais là aussi, c'est un peu timide parce qu'il y a certains qui viennent, certains qui ne viennent pas. En tout cas, pour ce qui concerne Mopti. Mais pour ce qui concerne les autres cercles de la région, là, les enseignants ont carrément boudé les écoles selon les informations dont nous disposions à l'heure actuelle. Seul à Sanga, où les écoles privées sont en train de travailler, et là, selon les informations que nous avons recueillies, ça et là, Sanga n'a quand même d'ailleurs pas fermé les écoles, même avec la décision du gouvernement à cause de la maladie à coronavirus. Et ils ont continué à aller à l'école, je dis bien les écoles privées de Sanga. Mais à part ça, toutes les écoles, l'administration est présente, les élèves sont là, mais malheureusement, les enseignants ne sont pas là. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu ouverture, réouverture de l'école après la décision du gouvernement.
Avez-vous des informations par rapport au respect des mesures barrières dans les écoles privées où la réouverture a été une réalité?
Oui, dans les écoles privées, on constate, même dans les écoles publiques, on constate souvent des kits de lavage de mains, quelques élèves qui sont là-bas, qui partent et ont des bavettes, c'est quelques-uns seulement, mais ce n'est pas tout à fait effectif. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un manque aussi de respect de ces mesures barrières au niveau des établissements, vraiment, dans lesquels nous avons fait le tour. Même au niveau de l'intérieur, ça, c'est le même constat. Les gestes barrières ne sont pas vraiment du tout respectés, mais quelque part, on remarque la présence de quelques types de lavage de mains.
Merci beaucoup, Mamoudou Bokoum. Vous êtes notre correspondant à Mopti.
Merci beaucoup.
Alors, docteur Seydou Loua, quel va être l'impact de toute cette perturbation sur les élèves même?
L'impact sera énorme. Ça, je pense que tout le monde peut faire le constat. L'impact sera énorme. Vous savez, à un moment donné, il faut que les autorités maliennes, les parents d'élèves, les enseignants, il faut qu'on arrête cette mentalité de vouloir sauver l'année. Chaque année, on sauve l'année. Chaque année, on sauve l'année. À un moment donné, il faut essayer de sauver l'école. Parce qu'en sauvant les années, en colmatant les brèches, effectivement, on va créer, on va fabriquer une génération, plusieurs générations incompétentes de diplômés au Mali. Donc, le fait que les écoles ouvrent dans cette situation, vous venez de l'entendre, votre correspondant dit qu'à part Sanga, il n'y a pas de cours dans les autres localités. Le professeur vient de signaler à Bamako dans les lycées, c'est presque la même chose. Dans les classes de 9e année, les enseignants ont boycotté les écoles. Donc en réalité, il n'y a pas eu d'ouverture. Officiellement, le collègue a parlé de coup médiatique, peut-être un coup médiatique, en disant que les écoles sont ouvertes, le Mali a repris avec les classes d'examen. Mais dans les faits, il n'y a pas de reprise. Donc si on continue comme ça, on va essayer de colmater les brèches pour essayer de sauver l'année comme ce qui s'est passé l'année dernière, et faire les examens, repêcher les élèves, parce que si on fait l'examen comme ça, normalement, ben, il y aura 2 ou 3% de taux de passage. Mais on va repêcher, on va faire semblant la politique de l'Autriche, faire comme si tout va bien, mais alors en réalité, tout le monde sait que ça ne va pas. Et ça, c'est depuis 91, en réalité, l'école malienne est en crise. Donc il faut arrêter de sauver l'année, arrêter de sauver des années de 3 mois, de 4 mois, et essayer de sauver l'école. Sauver l'école, il faut la participation de tout le monde. Sinon, le niveau de l'élève malien aujourd'hui, le niveau de l'étudiant malien aujourd'hui est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Et ce qui se passe avec les diplômés, les Maliens sont maintenant partout au monde. Les Maliens vont étudier partout. Et ces Maliens qui vont étudier ailleurs reviennent. Ils reviennent sur le marché de l'emploi malien. Et ils vont compétir avec les élèves et étudiants qui ont été formés au Mali. Et ces élèves et étudiants qui ont été formés au Mali avec 3 mois d'année scolaire, 4 mois d'année scolaire, sortent avec un diplôme. Mais la compétition est intenable pour eux face à quelqu'un qui a étudié en France et qui est revenu avec le même diplôme. Donc, on va former des élèves, des étudiants incompétents qui vont directement au chômage. Donc l'impact en réalité est énorme sur le niveau des apprenants, sur le niveau des diplômés, sur la société dans son ensemble. Parce que si l'école ne fonctionne pas, tout le monde peut faire le constat, en réalité, l'éducation est le socle du développement du pays. Si on forme des incompétents, ce sont des incompétents qui vont se retrouver dans des postes et rien ne pourra marcher. Donc à un moment donné, il faut vraiment qu'on arrête de se leurrer, qu'on arrête de faire semblant et que tout le monde, comme un seul homme, comme on a l'habitude de le dire, que tout le monde ait en tête que l'éducation est une priorité nationale et que tout le monde travaille dans ce sens. Les parents d'élèves, c'est vrai, ils font beaucoup d'actions qui ne sont pas très médiatisées, c'est vrai, mais moi je pense que les parents doivent s'impliquer davantage. Les parents doivent s'impliquer davantage. L'État doit aussi s'intéresser à l'école publique. L'État a délaissé l'école publique. Et l'État doit s'intéresser aussi aux écoles privées. On parle beaucoup d'écoles publiques, mais le niveau des élèves des écoles privées aussi est catastrophique, parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. Le suivi qui doit être fait par les académies, par les CAP, n'est pas fait normalement, n'est pas fait correctement. Monsieur le collègue dit qu'il a été inspecteur pendant 15 ans, il doit en savoir quelque chose. Les écoles privées recrutent n'importe comment, rémunèrent les enseignants n'importe comment, enseignent des programmes qui n'ont souvent rien à voir avec le programme malien. Donc en réalité, l'école en général au Mali est dans des difficultés depuis plusieurs années. Donc ça a effectivement un impact terrible sur le niveau des apprenants et il est temps qu'on arrête de sauver l'année et qu'on essaie de sauver l'école.
Et qu'est-ce qui bloque réellement les négociations entre les enseignants et les gouvernants ?
Bon, aujourd'hui, à partir du vendredi passé, nous avons fait d'autres pistes de négociation, pas dans la commission de négociation. Notamment, le président de l'Assemblée a décidé de s'impliquer. Mais malheureusement, même avec... lui, nous restons toujours un peu bloqués malgré des concessions énormes que les syndicats signataires ont fait. En effet, il ne maîtrise pas assez le dossier. Quand on s'est rencontrés, on lui a expliqué la situation, on lui a fait la proposition. Et il nous a demandé de faire des concessions et nous avons concédé les rappels de 2019 pour bonne foi, pour qu'on puisse aller vraiment vers une conciliation. Malheureusement, nous l'avons proposé, nos 1272 en 2020, puisqu'on a concédé déjà en 2019, les 1387 en 2021. Donc, il est allé, il dit qu'il a appelé le PM, le président de la République, après il est revenu. Il nous a fait des propositions d'échelonnement, des propositions d'échelonnement 1200 en 2020, 1200 en 2021. 1272 à partir de janvier et juin 2022 et 1387 à partir de juillet 2022. Donc, puisque, bon, je crois qu'ils ont utilisé notre communication, puisque nous avons dit, à partir du mois qui s'inscrivent dans le cadre de l'application de la loi, nous allons voir. Mais nous avons vu que, au fait, c'est une manière malicieuse de l'appliquer, puisque déjà, à partir de 1200, nous nous trouvons, c'est-à-dire au même niveau de l'agriculture du statut général, qui est la limite imposée par l'autre. C'était juste une manière de nous tromper, en effet. Donc nous avons dit que s'ils veulent vraiment aller dans l'esprit de l'application de la loi, nous sommes prêts à accepter l'échelonnement jusqu'en 2022. Donc en échelonnant jusqu'en 2022, mais de prendre en lieu et place de 1272, qui est la limite de la loi en termes de pourcentage, on vient au point, les 180 points ajoutés, c'est-à-dire au plafond du statut du personnel ancien, de la grille du personnel ancien, qui fait 1240. Donc là aussi, on a concédé 32 points. Donc à partir du moment que le gouvernement accepte les 1240 en 1220, les 1240 en 1221, notre proposition à partir de 1272-1283 en 2022, nous sommes prêts à accepter. Bon, malheureusement, il dit qu'il a été. Bon, il n'a pas pu, à présent, avoir les 1240. Donc, à l'unanimité, le Sénégal avait décidé de rejeter, c'est-à-dire sa proposition. Donc, et hier encore, il est revenu à la charge. Il y a eu une rencontre. Les pistes restent toujours à explorer.
Mais en effet, quelle est la position réelle du gouvernement? Est-ce qu'ils disent non, ils ne vont pas le faire, ou est-ce qu'ils vous demandent d'attendre?
Je dis que c'est une manière malicieuse d'appliquer l'article 39. C'est-à-dire en faisant ressortir les fourchettes de la loi 1272-1287 et 1200 en 2020, ils se disent être dans l'esprit de la loi. Mais au fait, ce n'est pas ça. La loi s'applique dans le temps. Nous avons concédé 2019. Et la loi à un point de départ. Le point de départ, c'était 1272. Nous avons dit, nous concédons les 32 points pour prendre 1240 comme bonne foi. Mais est-ce que cela s'applique à partir de 2020? Donc si cela s'applique à partir de 2020, là, il n'y a pas de problème. Là, d'accord, on est dans l'esprit de la loi.
Et je rappelle que nous avons invité le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation, mais nos tentatives sont restées vaines. Monsieur Sako, vous suivez ces négociations. Selon vous, qu'est-ce qui bloque?
Bien, il y a, à mon niveau, plusieurs points de blocage. Prenons l'article 39. Vous savez que, sous d'autres aspects, cet article peut se répercuter sur tous les autres statuts particuliers et statuts autonomes. Aussi bien l'enseignement supérieur, si on applique à la synergie, l'enseignement supérieur doit en bénéficier. La magistrature doit en bénéficier. La police doit en bénéficier. La protection civile doit en bénéficier, etc.
Donc, est-ce que ça veut dire que tous les fonctionnaires doivent en
bénéficier? Mais comment, si on le dit, on ne peut pas donner à ceci et puis laisser les autres. Ça, c'est un problème, un aspect. Peut-être que le gouvernement a vu. Le second aspect, moi, je ne sais pas, un assistant du supérieur, il a quel indice aujourd'hui? Je ne me suis pas intéressé. Mais si eux, ils vont à l'indice 1380, un assistant d'université avec une thèse, lui, il est à quel indice? Donc, ça va être une répercussion en chaîne pour réajuster, parce qu'on ne peut pas payer au même taux indiciaire un professeur de l'enseignement secondaire qu'un assistant détenteur de doctorat au supérieur. Ce n'est pas possible. Ce ne serait pas juste. Donc, si on accepte jusqu'à l'indice 1380 quelque pour le secondaire, il faudrait revoir aussi les indices au niveau du supérieur. Et ils vont le demander. Ça, ce sont les différents points à mon niveau qui trouvent, dont le gouvernement n'arrive pas à trouver la solution qu'il faut. Et le syndicat aussi ne veut pas demander. Je vais rectifier un peu ce que le docteur Loua a dit pour le privé. En réalité, on n'ouvre pas une école privée comme ça. Il faut une autorisation à partir d'une inspection. L'inspection voit la structure, la composition de l'administration, la composition du corps professoral, les programmes, etc. Si les programmes sont les programmes officiels. Donc, ce sont les programmes officiels. Mais là où il y a problème, le corps professoral du privé est à 80% constitué de professeurs du public. Tu as compris? Parce que quand j'étais là-dedans encore, les établissements d'enseignement privé qui pouvaient se prévaloir d'avoir plus de 10% comme enseignants permanents, mais c'est rare.
Mais ce que le docteur Loua a dénoncé par rapport aux écoles privées, notamment
aussi. Il ne recrute pas.
Il s'agit du contrôle.
Voilà. Mais non.
Voir si les choses se font dans les règles.
C'est ce contrôle qui n'est pas fait correctement.
Voilà. De la façon, il y a ce problème d'insuffisance de contrôle à tous les niveaux. Parce que vous savez, je n'ai pas encore les chiffres, mais il y a deux ans, il y avait près de 2500 établissements d'enseignement secondaire, technique et professionnel, pour peut-être une petite centaine de publics.
Au Mali.
Au Mali. À Bamako, il y avait quelques milliers. Donc, donc ils doivent être maintenant à plus de 2500 si certaines n'ont pas fermé.
D'accord. On va à Koutiala. Il y a également l'hivernage qui peut constituer un problème par rapport à la réouverture des classes. On va retrouver David Koulibaly, notre correspondant. Monsieur Koulibaly.
Effectivement, Mahamadou et à Koutiala, les classes ont effectivement réouvert le mardi passé 2 juin. Ben, il faut reconnaître que c'était pratiquement au niveau des établissements privés. Parce qu'au niveau des écoles publiques, les enseignants étaient en tout cas présents, mais ils n'ont pas intégré les classes, ils sont restés dehors. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, au niveau des écoles publiques, les enseignants, les classes sont même pratiquement fermées, mais les directeurs sont présents par endroit au niveau des établissements. Mais en ce qui concerne l'école privée, les classes ont commencé, les élèves ont commencé les cours et ça se passe bien, ça se passe normalement. Et comme vous l'avez dit, l'inquiétude ici, Koutiala, c'est une zone d'agriculture, une zone agricole, si vous voulez bien. Et les parents s'inquiètent toujours, vous n'êtes pas sans savoir que les enfants sont les bras valides de ses parents au niveau des champs, à l'hiver, au moment de la saison pluvieuse. Alors les parents s'inquiètent beaucoup et se demandent si toutefois on devrait continuer avec chaque année avec cette mesure, avec ce comportement au niveau des écoles, prolonger l'année scolaire avec les élèves et empêcher ces élèves d'aller aux champs cultivés à côté de leurs parents. Et c'est ce problème qui se pose ici. Mais qu'à cela ne tienne, les parents ont quand même décidé de laisser cette année les enfants faire l'école, les examens, les différents examens, mais demandent à l'autorité de tutelle au niveau de Koutiala, à l'académie surtout, sinon au niveau national, de tout mettre en œuvre pour éviter de tels comportements dans les jours à venir, dans les années à venir. Sinon, les mesures barrières sont respectées au niveau des établissements privés. Chaque élève porte une bavette. On voit également par endroit des kits de lavage des mains. Et ensuite, la distanciation au niveau des classes est respectée partout où nous nous sommes rendus, en tout cas au niveau des établissements privés, parce qu'au lieu de 3 à 4 élèves sur la table banc, nous apercevons qu'il y a un peu partout 2 par table banc, soit une personne par table banc. Et ce qui veut dire que les mesures de distanciation et les barrières de lutte contre le coronavirus sont respectées au niveau des établissements privés.
Merci beaucoup, David Koulibaly. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Koutiala. Mais 2 élèves sur une table, est-ce que la distance d'un mètre est respectée, docteur Loua?
Oh, ça dépend de la taille de table banc. Mmh. Il y a des table bancs classiques où 2 élèves sur une table, effectivement, il ne peut pas avoir 1 mètre entre les deux. Mmh. Mais ça dépend de la taille du table banc. D'accord. Donc c'est possible en fonction, effectivement, de la taille du table banc.
Mmh. Il a soulevé quelque chose par rapport à l'hivernage. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de poursuivre l'année scolaire, comme l'a déclaré le secrétaire général du ministère de l'Éducation, Kinana Gadega, jusqu'en novembre prochain, pour rouvrir les écoles pour l'année prochaine en décembre, est-ce que ce sera possible, surtout dans les zones agricoles?
Bon, officiellement, ils vont le faire, mais en réalité, beaucoup d'enfants n'iront pas à l'école. C'est vrai, votre collègue vient de dire, les parents peut-être de Koutiala concèdent cela, mais ce n'est pas tous les parents qui vont le faire. L'année dernière déjà, l'année scolaire a été prolongée jusqu'au début de l'hivernage. Et il y a beaucoup de parents dans beaucoup de villages qui ont carrément refusé ce que les enfants aillent à l'école. Vous savez, il y a toujours des parents qui ne veulent même pas que leurs enfants continuent à fréquenter l'école. Et en plus forte raison, pendant l'hivernage. Donc ces parents réticents-là, effectivement, ont eu toutes les bonnes raisons pour demander à ce que leurs enfants ne retournent pas à l'école. Et c'était des enfants qui faisaient le DEV ou qui faisaient le BAC et qui ont presque tous échoué. Moi, je connais un village dans les cercles de Kita où il y a eu un passant sur plus de 100 candidats au DEF. Il n'y a eu qu'un passant et c'était un redoublant, en réalité. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça. Pas parce que les élèves n'avaient pas un bon niveau, mais parce que les élèves n'ont pas suivi les dernières révisions qui se sont déroulées au début de l'hivernage. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Je ne dis pas que les parents ont raison de refuser à ce que les enfants aient à l'école, mais c'est à l'État, comme le collègue vient de le dire, c'est à l'État de s'organiser, c'est aux enseignants de s'organiser, c'est aux parents d'élèves de s'organiser pour éviter ce décalage de l'année scolaire pour aller vers l'hivernage. L'hivernage, c'est les vacances. Les bras valides des parents, ce sont les élèves. Et souvent, vous allez trouver dans une famille, tous les enfants qui doivent cultiver sont scolarisés. Et c'est pendant l'hivernage qu'ils reviennent pour cultiver et c'est ce qui permet à la famille de survivre ou de vivre en quelque sorte. Alors si ces enfants sont à l'école, il n'y a pas de travail dans les champs. S'il n'y a pas de travail dans les champs, il n'y a pas de récolte. Donc vous imaginez aussi les conséquences sur les familles. Donc en réalité, on va le faire officiellement, mais beaucoup d'enfants n'iront pas à l'école pendant l'hivernage.
Vous avez parlé du niveau des élèves. Certains remettent en cause le niveau également de certains de ces enseignants.
Évidemment, le problème... la compétence des enseignants est décriée depuis plusieurs années. On a beaucoup d'enseignants aujourd'hui, en réalité, qui ne méritent pas d'être devant les élèves. Et cela a commencé depuis la fameuse nouvelle école fondamentale. Quand on a dit un village, une école, ça c'était au niveau du PRODEC, un village, une école en 98, avec le président Alpha Omar Konaré. Effectivement, ils ont commencé à construire des écoles dans les villages, mais il n'y avait pas eu d'enseignants. Alors les villageois ont trouvé des enseignants sur place pour essayer d'ouvrir leur école. Et souvent, ce sont des enseignants qui n'ont même pas le niveau DF ou bien qui n'ont pas le niveau BAC et qui se retrouvent dans les classes d'examen en train d'enseigner aux élèves. Et ça, c'est un problème. Deuxième problème, les enseignants ne sont pas assez bien formés dans les instituts de formation d'enseignants au Mali. Et en plus de ces problèmes de formation, nous avons aussi le problème de formation continue. L'inspecteur, monsieur a été inspecteur pendant 15 ans, il le sait. La formation continue au Mali n'est pas faite correctement. Soit elle est entachée de corruption, soit il y a beaucoup d'enseignants qui ne participent pas, soit les formations en réalité sont organisées de façon officielle pour souvent 15 jours, pour souvent 20 jours, mais les enseignants vont, ils font 5 jours, ils ramassent les perdièmes et chacun rentre à la maison. Donc le problème de compétence de l'enseignant est décrié depuis plusieurs années. C'est une réalité. Et si l'enseignant est mauvais, cela va de soi que l'élève aussi soit mauvais, et ainsi de suite. Donc, en dehors du problème d'argent des enseignants, je suis tout à fait d'accord avec les collègues quand ils veulent réclamer une augmentation des salaires, mais il faut aussi parler de la compétence des enseignants. C'est vrai, on va donner de l'argent aux enseignants, mais il faut aussi leur demander des résultats. Et pour demander des résultats aux enseignants, ils doivent être dans de bonnes conditions. Donc le système doit être effectivement organisé de telle sorte que les élèves, les enseignants soient dans les bonnes conditions. Et c'est en ce moment qu'on peut demander des résultats aux enseignants. Et c'est en ce moment qu'on peut demander des résultats aux élèves. Mais si rien ne marche correctement, c'est difficile effectivement de réclamer quoi que ce soit.
Mouri Dambélé, qu'avez-vous à dire par rapport à cette compétence de certains enseignants qui est remise en cause?
Non, bien avant de répondre à cette question, vous me permettez d'apporter quelques informations ou des éclaircissements par rapport à ce que le doyen a dit. En ce qui concerne l'application de l'article 39, le semblant n'existe pas dans tous les statuts autonomes. Le semblant n'existe pas, ça existe chez au statut de l'enseignement supérieur, ça existe également chez les magistrats. Les autres, les statuts que nous détenons, l'article n'existe pas. Donc ça ne veut pas dire que de façon automatique, quand on accorde aux enseignants, il doit avoir une répercussion sur tout le monde. Ça, c'est un autre aspect. Deuxième aspect, concernant la comparaison avec la grille du statut du personnel enseignant du supérieur, il faut reconnaître que le gouvernement du Mali, dans son intelligence, a accordé la grille du statut du personnel enseignant du fondamental et du secondaire en portant haut le plafond, alors que ça dit c'est le bas. En réalité, c'est-à-dire de la grille qui n'est pas du tout bonne. Contrairement à l'enseignement supérieur, nous avons 16 échelons. Notre grille fait 16 échelons. L'enseignement supérieur a 12 échelons. C'est-à-dire selon les différentes catégories d'enseignants, qu'ils soient maîtres assistants, qu'ils soient maîtres professeurs de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les professeurs de recherche. Donc la grille varie, c'est-à-dire dans ces détails-là. Chez nous, c'est-à-dire c'est le bas. Parce que le gouvernement a répercuté, c'est-à-dire en 2016, c'est-à-dire la grille, la plupart importante de la grille au sommet, alors que la base souffre. En réalité, ça dure des avantages de la grille, qui a été beaucoup décrié, d'ailleurs par moi, au moment de l'élaboration, parce que c'est le gouvernement qui a élaboré, sachant que la majeure partie des anciens se trouve, c'est-à-dire en classe 3 et en classe 2, dont le gouvernement a joué à l'intelligent pour renvoyer, c'est-à-dire les indices les plus élevés.
Êtes-vous d'accord avec M. Sarko quand il dit que si l'article 39 est appliqué pour les enseignants, ce sera les enseignants du supérieur également, ainsi que les magistrats risquent de demander l'application de cette mesure en leur faveur aussi?
Les enseignants du supérieur avaient même déposé un préavis contenant l'article. Ils ont eu des accords, peut-être ils ont eu d'autres choses, peut-être qui est plus important que l'article 39, ils ont laissé. Sinon, ils avaient, c'est-à-dire, je me rappelle, à la rentrée d'octobre, je crois, en octobre, il y avait un préavis. L'application de leur article était dedans. Mais ça apparaît dans les points de désaccord. Mais ils ont eu un accord, ils ont suspendu leur mot d'ordre. Mais c'est vrai, peut-être dans leur préavis, il y avait d'autres choses encore plus importantes que peut-être l'application de l'article, les raisons dont ils ont concédé ça au gouvernement. Bon, en ce qui concerne les magistrats, l'année surpassée, les magistrats ont fait une lutte pour améliorer leur grille.
D'accord, compétence des enseignants.
Compétence des enseignants, c'est...
Vous voulez dire que c'est vrai?
Oui, mais c'est de façon... C'est pas général. Il y a quelques anciens. Et cela aussi est dû aux autorités, au fait. Aujourd'hui, on suppose que, aujourd'hui, pour accéder, depuis 2010, pour accéder à l'éducation, c'est un concours. Et en effet, un concours, c'est pour prendre quand même les meilleurs, ceux qui sont les plus compétents. En effet, ça, c'est, même si ce n'est pas une vérité absolue. Ce que le collègue a dit Avant, avec la NEF, où il y a eu des écoles communautaires, les villageois ont pris, on a recruté des gens avec les DEF. Même là, même il y a des gens qui sont sortis, même de nos écoles de formation, ils n'ont pas ce niveau.
Monsieur Loi a dénoncé toute cette situation, tous, mais il estime également qu'il y a une autre chose qui est le manque de formation continue. Est-ce que les enseignants, après être recrutés, acceptent de se former pour améliorer leurs compétences ?
Ce n'est pas une question d'acceptation des anciens, cela s'impose, la formation continue. Vous ne constatez pas que les entreprises les plus compétentes au monde reposent la compétence de leur entreprise sur la formation ?
Ça s'impose,
mais c'est au Mali, c'est au Mali. Les innovations pédagogiques dont la formation doit être faite peut-être en un mois, en 15 jours, au Mali, on rétrécit pour 4 jours aussi, ou 6 jours. Ça, c'est un premier aspect. J'enseigne comptabilité aussi. Vous avez constaté qu'il y a eu la révision du Sisquadra. Mais le gouvernement du Mali n'a pas initié une formation pour former, c'est-à-dire les professeurs de comptabilité afin de les adapter.
À ce niveau, certaines autorités estiment qu'elles n'ont pas les moyens de satisfaire toutes les recommandations, les demandes des enseignants par rapport à cette question, parce que les enseignants demandent des perdiums à chaque formation.
Non, imaginez-vous que nous, au niveau de l'AMES, l'Association malienne des anciens économistes du secondaire, nous étions obligés de nous mettre ensemble et mettre l'inspecteur à notre disposition. Certains avaient déjà bénéficié de cette formation quand ils étaient en formation, c'est-à-dire dans des universités, et ils ont fait le partage, c'est-à-dire de ce qu'ils ont eu avec nous. Or, c'est le gouvernement qui devait en principe former les anciens à cette innovation qui a été apportée au Sisquadra. Tout ça rentre dans la ligne de la gestion hypocrite de l'école malienne.
On va écouter le directeur de l'enseignement fondamental, Mahamadou Keïta, sur les dispositions prises par rapport à cette réouverture des classes d'examen.
Toutes les dispositions sont prises. Le gouvernement a envoyé au niveau de toutes les académies d'enseignement des masques pour les élèves, pour le personnel enseignant, pour le personnel administratif. Ensuite, il a été demandé au préfet, au gouverneur de région, de mettre à la disposition des écoles les kits de lavage des mains. Maintenant, sur le plan pédagogique, nous avons demandé à ce qu'on aille vers une révision des temps d'apprentissage. Toutes les matières qui ne sont pas évaluées à l'examen, on a laissé ces matières-là pour se concentrer uniquement sur les matières qui sont évaluées. L'autre aspect, c'est qu'on a demandé aussi de prendre les après-midi du mercredi et la matinée du samedi, ce qui va faire 6 heures. Ajoute ça aux matières qui sont enseignées. Ça va nous permettre de rattraper le temps qui a été perdu pendant ces périodes de fermeture. Et il a été aussi demandé à toutes les écoles de procéder à une répartition des candidats entre les différentes classes. 25 candidats maximum par salle.
Au-delà, après ces 4 premiers jours, est-ce que vous pensez que toutes ces mesures sont applicables ? Le directeur part jusqu'à annoncer que le samedi sera également inclus.
Non, tout dépendra pour l'instant. Parce que le problème, c'est au niveau des professeurs. Parce que les élèves n'ont pas refusé d'accéder aux salles de classe. À travers beaucoup d'interventions, il y a eu quand même quelques efforts pour fournir les masques et les kits de lavage des mains. Donc, c'est l'absence de professeurs qui constitue le gros problème.
Vous dites que les élèves n'ont pas refusé, le problème, c'est les enseignants. Le gouvernement n'a pas, entre guillemets, refusé les demandes des enseignants aussi ?
Je ne pense pas que le... Parce que, comme on a eu à le dire la semaine dernière, ben, dans toute négociation, on se fait des concessions. On ne va pas avec l'idée de la loi du tout ou rien. Alors, l'enseignant, pour moi, c'est un sacerdoce.
Ils disent avoir fait des concessions, vous n'êtes pas d'accord ?
Bon, ça c'est le gouvernement qui peut évoluer le niveau de ses concessions. Moi, je ne peux pas évoluer le niveau de ses concessions.
D'accord, le temps nous fait défaut, docteur Seydou Loi. Que faut-il faire aujourd'hui pour trouver une solution définitive à ce problème d'éducation au Mali ?
Bien, malgré toutes les mesures qu'on va prendre, si les anciens ne sont pas là, ça ne servira absolument à rien. Alors, il faut arrêter de sauver l'année, comme je le disais au début, et sauver l'école. Et nous pouvons avoir deux alternatives. La première alternative, c'est quoi ? Il y a eu beaucoup de réformes déjà. Il y a eu un forum en 2008 sur l'éducation. Il y a eu le PRODEC 1, il y a eu le PRODEC 2, dont le document a été finalisé en 2019, avec de très bonnes recommandations, avec de très bonnes propositions. Le forum, il y a plus de 100 pages de propositions. Donc la première alternative, c'est d'essayer déjà d'appliquer toutes les propositions qui ont déjà été faites pour sauver l'école. Deuxième alternative, si on veut encore réformer, cette fois-ci, il faut réformer avec les enseignants. Pas sans les enseignants, pas contre les enseignants, mais avec les enseignants, parce que sans eux, rien n'est possible. Il faut réformer avec les parents.
pas sans les parents, pas contre les parents, mais avec les parents, parce que sans les parents aussi, l'école ne peut pas fonctionner correctement.
D'accord.
Et aussi avec les élèves. Donc, il faut que tout le monde mette dans la main
pour s'impliquer, pour trouver un bon résultat. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que Studio Tamani a lancé son programme éducation que vous pouvez suivre tous les jours de 10h à 11h. Il s'agit de la contribution de la Fondation Hirondelle et de ses partenaires à la continuité pédagogique de l'enseignement au Mali. Merci à nos invités, Mouri Dambélé du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016, Daouda Sako de la Fédération des parents d'élèves du Mali et Dr Seydou Loua, pédagogue enseignant à l'université de Bamako. À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté et Péting Diarra, je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.